Dans une carrière de gynécologue, on est amené à rencontrer évidemment quasi exclusivement des femmes et très souvent des femmes qui, lorsqu'on prend le temps de les écouter ou le temps de les interroger, peuvent nous raconter des parcours de vie difficiles, marqués par la violence. Ça peut être une violence dans l'enfance avec des antécédents d'inceste ou d'agression sexuelle ou de mauvais traitements d'ailleurs. Ça peut être une violence dans le monde du travail, ça peut être des violences conjugales. Et ce sont des témoignages qu'elles ne délivrent pas à n'importe qui, évidemment, mais quand elles se sentent en confiance et en général une relation avec un médecin est supposée être une relation de confiance, elles acceptent de se livrer. Et j'ai toujours trouvé à la fois très touchant qu'elles profitent de l'espace de la consultation pour me raconter ça. Et très douloureux de ne pas avoir beaucoup de ressources à leur proposer.
Parole d'elle.
Parole d'elle.
Parole d'elle.
Bonjour et bienvenue pour ce troisième épisode de Parole d'elle. Aujourd'hui, je vous emmène à Saint-Denis, dans une maison de santé un peu particulière, puisqu'elle est entièrement dédiée aux femmes victimes de violences. C'est la Maison des Femmes. Elle a ouvert il y a 2 ans grâce à sa fondatrice, la docteure Hada Hatem, gynécologue et ancienne chef du service maternité à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis.
Parole d'elle.
Une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. 40% des violences conjugales débutent lors de la première grossesse. 7% des femmes sont victimes de viols au cours de leur vie. 200 millions de femmes ont subi des mutilations sexuelles à travers le monde. La Maison des Femmes tente de les réparer dans leur corps et dans leur esprit. C'est un grand bâtiment au toit pointu, tout coloré de jaune, rose et bleu, caché derrière une longue grille juste à côté de l'hôpital de La Fontaine de Saint-Denis. Les entrées sont filtrées grâce à un interphone, comme pour donner un peu plus le sentiment de protection et de confidentialité une fois la porte passée. Ici, toutes les femmes sont ou ont été victimes de violences physiques, sexuelles. Des femmes excisées viennent pour reconstruire leur appareil génital et apprendre à avoir une vie sexuelle. La marraine de la Maison des Femmes est d'ailleurs une figure de la lutte contre l'excision, la chanteuse Ina Modja, dont un petit mot est encadré près de l'entrée. On peut y lire « Ensemble, on est plus fort ». Ensemble, c'est aussi ce qui était indispensable pour la docteure Hada Hatem.
Je me suis dit qu'un endroit qui pourrait entendre toutes ces paroles et qui saurait quoi en faire, parce que c'est bien beau d'écouter, c'est déjà énorme, mais quand on est un peu seul, face à face avec la patiente, on se dit bah, « maintenant je fais quoi ? Je l'envoie à qui ?» Je me suis dit qu'un endroit qui réunirait des professionnels divers pourrait être un endroit intéressant. C'est un peu comme ça que j'ai commencé à penser. Alors c'est la salle des appartements médicamenteux. On a les deux pièces qui sont pareilles pour les psychologues, pour la conseillère conjugale, etc. Et puis donc là, l'accueil avec le guichet d'accueil indifférencié, que la personne qui est là doit pouvoir poser des questions, on est en plein dans la salle d'attente, comprendre le degré d'urgence, qui est-ce qu'elle doit appeler, voilà.
Parce qu'il y a des personnes qui viennent aussi sans rendez-vous.
Ah, mais plein. Et elles ne disent pas, enfin voilà, ou alors bah, j'ai été violée, ou on me tape, enfin peu importe. Ça c'est Pauline.
Bonjour. Je m'appelle Pauline Sarrazin, je suis une des sages-femmes d'accueil et d'orientation qui travaille au sein de la Maison des Femmes et je travaille aussi à l'hôpital de La Fontaine. Je suis juste là sur le parcours violence, c'est-à-dire que je ne vais pas m'occuper des femmes enceintes, je ne vais pas faire du suivi de grossesse, je vais faire vraiment de l'accompagnement des femmes victimes de violences. Donc on les reçoit, on voit un petit peu leurs demandes, on les oriente, on évalue. Et on les soutient bah, le temps nécessaire pour qu'elles se reconstruisent, qu'elles se sentent mieux, autonomes.
Vous avez la sensation de les aider à revivre un petit peu ?
Bah, revivre, ça fait genre... je suis Dieu. Non, à revivre, ouais, à respirer, quoi. À se sentir vraiment libre. On n'a pas tous la chance ou toute la chance d'avoir des parents qui expliquent que c'est pas normal quand un homme crie dessus, de se faire insulter, que quelqu'un vous agresse, le savoir dire non. Moi, j'ai eu cette chance. Mes parents, ils m'ont dit que j'étais l'égale d'un homme depuis que je suis toute petite. Et je me suis dit, bah, c'est dommage que ça soit pas comme ça pour tout le monde. Du coup, je fais ma petite participation. À l'inverse de toutes les autres associations où, tu vois, ça va être des travailleurs sociaux, là, on s'est dit, on va essayer de se différencier parce que forcément, quand tu es victime de violence, il y a des conséquences sur médicales. Et donc, nous, on va commencer par dépister ça et puis après, on s'appuie là-dessus.
Des conséquences sur le corps, finalement.
Oui, c'est ça. C'est le psychotraumatisme. Ça me sert beaucoup dans ma pratique. Quand je suis en consultation prénatale, je peux dépister, je peux voir des comportements que moi, je trouve suspects. Du coup, je vais pouvoir un peu plus parler parce que je sais que si elle me dit n'importe quoi, je saurai quoi répondre. Sur le suivi de grossesse, quand tu viens à la maternité pour le premier rendez-vous, on a la question, le dépistage systématique. Sauf que des fois, des dames, elles disent non parce que c'est dur d'en parler, tout simplement. Donc moi, j'en ai eu une la semaine dernière où je sais pas pourquoi, je lui ai dit « Mais comment ça se passe avec votre mari ou dans l'enfance ?» Et là, elle m'a dit « Bah oui, effectivement, j'étais victime d'inceste quand j'étais jeune et avec mon mari, ça va pas du tout parce que là, tout de suite, il comprend pas et du coup, ça l'énerve. » Alors qu'elle était en fin de grossesse, qu'elle avait eu sa consultation d'accueil et qu'elle avait répondu non au questionnaire. Et là, aujourd'hui, je vois plein de femmes qui arrivent qui ont été suivies à l'hôpital. Donc elles ont eu la question, elles ont eu des enfants, elles ont eu le dépistage systématique. Elles n'ont rien dit parce qu'elles avaient honte. Et elles viennent là, je ne sais pas, un an, deux ans après, parce qu'elles se disent, tu sais, on m'a posé la question, donc peut-être qu'on peut m'aider. Donc il faut le temps du cheminement, quoi.
Elles sont ainsi 30 à 40 femmes à pousser la porte de la maison des femmes chaque jour. Certaines ont été suivies à la maternité à l'hôpital de La Fontaine. Et c'est donc suite au dépistage de violences conjugales mises en place pour les femmes enceintes qu'elles se font soigner ici. D'autres sont envoyées via les urgences, des associations, des services dédiés à la lutte contre les violences faites aux femmes dans les villes également. Si les 3000 femmes accueillies en moyenne chaque année ont chacune un vécu bien singulier, toutes ont souvent subi des violences identiques.
C'est très variable parce que, alors, il y a les migrantes, notamment d'Afrique subsaharienne. Elles ont été excisées, plus ou moins jeunes. Elles ont été mariées de force, elles ont été violées par leur époux parce qu'elles n'avaient pas envie d'avoir des rapports avec lui. Donc, elles ont un continuum de violences comme ça, à tel point qu'elles finissent par se dire que c'est peut-être ça la vraie vie, en fait. Et d'autres ont eu des choses ponctuelles, comme par exemple rencontrer un conjoint violent et puis ne pas s'en apercevoir très vite et puis finalement tomber dans la violence quotidienne. Ou alors chez des patientes un peu protégées qui découvrent en regardant un film avec leur maman qui parle de ça, ou en allant voir le gynécologue, ou avec un petit ami d'une autre culture, que leur sexe n'est pas tout à fait comme celui des autres filles. Et donc, elles viennent consulter pour ça. Ces femmes qui ont traversé tout ça sont d'une résistance assez incroyable. Déjà, pour partir, il faut aller pas trop mal, parce que l'exil, c'est compliqué, l'exil sur la route, c'est compliqué. Il faut avoir un peu de sous. Alors, parfois, elles se sont endettées, et elles savent qu'en arrivant, elles vont devoir le rembourser par la prostitution. Mais il faut quand même avoir une certaine force de caractère, parce que marcher des kilomètres, accepter les insultes, les coups, les viols, ça demande beaucoup, beaucoup de courage. Et donc, pour les accompagner, déjà, on les écoute, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le temps d'écouter une femme qui veut raconter cette histoire-là. Et puis, on a pour principe de les croire, c'est-à-dire que peut-être que certaines enjolivent le récit en espérant avoir plus facilement des papiers d'asile, peu importe. En tout cas, nous, on les écoute, on les croit. Et on essaye, justement, une fois qu'un médecin ou une sage-femme les a écoutées, de se dire qu'est-ce qui pourrait aider cette femme. Est-ce qu'elle a besoin de voir le psychiatre? Parce que, manifestement, elle a des propos très confus et il s'est passé quelque chose. Ou bien, peut-être qu'elle a juste besoin de voir un psychologue parce que son passé la hante un peu, mais ne l'empêche pas complètement de dormir. Elle se plaint de ne pas ressentir grand-chose sexuellement, il faudrait qu'elle voie le sexologue. Elle a quitté le domicile conjugal, elle ne sait absolument pas quoi faire. Bah, si le policier est là, il peut l'emmener porter plainte. Voilà, tout, on essaye d'imaginer quel est le parcours le plus utile pour cette femme.
Léa Chanès, je suis étudiante donc, en droit. Je suis stagiaire donc, au sein de la Maison des Femmes et je peux répondre à des problématiques juridiques dont les femmes se posent comme question. Donc, j'ai emmené des femmes au commissariat ou j'ai donc, fait des demandes d'asile. Enfin, il y a tout, des femmes qui voulaient juste parler, les aider à apprendre le français, à faire du karaté.
Je suis Sally, étudiante sage-femme en quatrième année. 2 mois avant ce stage-là, j'ai été confrontée à une femme qui s'est confiée à moi sur qu'elle était victime de violences. Et je me sentais un peu démunie et je savais pas. Je voulais l'aider. Je voulais lui dire non, c'est pas normal ça. Il faut porter plainte, il faut faire des actions, il faut vraiment se bouger, il faut sortir de là. Et j'avais envie de l'aider plus, de lui dire, de la prendre par la main et de lui dire non, en fait, il y a plein d'autres trucs, t'es pas toute seule, on va t'aider. Et c'est compliqué à l'hôpital, en salle de naissance, de parler de cette problématique-là. Et en fait, du coup, je me suis dit, c'est le moment ou jamais de se rajouter ce stage-là pour apprendre. Et pour les prochaines femmes patientes que je rencontrerai, qui sera en demande, je serai là bien formée. J'ai jamais été autant confrontée à la misère humaine, tout simplement. Dès mon deuxième jour de stage ici, j'ai remis en question toute l'humanité. je me suis dit, mais ces choses-là, on ne les voit même pas dans les films, c'est inhumain. C'est animal, c'est sauvage. Et puis, d'un autre côté, voir tous ces professionnels de santé travailler, donner, et je me suis dit, ça c'est beau. Ça c'est beau de lutter contre cette sauvagerie, de cette inhumanité. Au final, quand on voit tout ce beau projet, ce rouage qu'il y a dans cette structure, et c'est beau, c'est de la solidarité, c'est gratuit, on aide beaucoup et on donne beaucoup. De voir par exemple la dame qui vient, on la voit rentrer en pleurs, ou alors avec un visage très fermé, et lui dire au revoir avec un grand, en la voyant avec un grand sourire, en l'entendant rigoler, ou même avoir un visage un peu moins fermé, terne, ça fait plaisir. On se dit qu'on ne fait pas ça pour rien.
À côté de ces quelques stagiaires, ce sont au total une vingtaine de professionnels qui travaillent à la Maison des Femmes. Et ce ne sont pas que des gynécologues ou des sages-femmes. Ici viennent aussi régulièrement des juristes, des policiers, des psychologues, des conseillères conjugales ou assistantes sociales et des bénévoles qui animent des activités censées redonner confiance aux femmes.
Plutôt que ce soit les femmes qui rayonnent pour aller vers tous les professionnels et que ça leur pourrisse la vie au point qu'elles abandonnent tout, et bien au contraire, les professionnels seraient autour des femmes. C'est ça que j'ai trouvé plus performant.
Je suis Francine de Cornulier. Voilà, je suis retraitée. Avant, j'étais directrice adjointe d'un établissement, d'un collège à Neuilly. Et voilà, et j'ai toujours fait du bénévolat, et notamment, donc là, ça fait plus d'un an que je suis à la Maison des Femmes pour donner des cours d'alphabétisation. Alors, j'ai été très impressionnée par une interview avec le docteur Hada Hatem. Et j'étais vraiment impressionnée par sa personnalité. Et puis, comme c'était une nouvelle association, je me suis dit, mais pourquoi pas? Voilà, je peux donner de mon temps et je le fais très volontiers. Et ça enrichit, ça nous enrichit de donner. Et on reçoit beaucoup. C'est une petite pierre dans... j'aimerais pouvoir faire plus et c'est vrai que c'est dur pour nous en fait de voir toute cette bonne volonté, cette motivation de ces femmes qui veulent s'en sortir, qui aimeraient bien travailler, qui aimeraient bien qui présentent toujours bien, qui arrivent toujours à être propres, à être malgré toutes les difficultés matérielles qu'elles rencontrent. Je quitte une de nos élèves, si je puis dire, qui est très volontaire, qui fait d'énormes progrès, qui est passée par Lampedusa, enfin, donc, voilà, un parcours quand même très difficile, et qui, là, elle m'a montré une feuille comme quoi elle n'avait plus de domicile. Donc, que faire le 115, voilà, on se sent complètement impuissant, et, Et je trouve ça terrible.
Un sentiment d'impuissance. Et pourtant, de nombreuses histoires finissent bien, comme le raconte Rada Hatem.
Oui, on a plusieurs très, 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 très jolies histoires. Et notamment, c'est peut-être la plus ancienne qui a bien abouti. C'est une femme qui était mariée avec un militaire haut placé dans son pays. Mais c'était un mariage forcé. Elle était victime de violences conjugales terribles. Et puis, elle avait été excisée dans l'enfance. Et elle est arrivée en France, elle dormait dans la rue, elle se lavait dans des ruisseaux. Elle avait trouvé une possibilité pour travailler un tout petit peu avec les papiers d'une copine qui lui ressemblait. Donc elle faisait des petites choses. Et moi, je l'avais vue la première fois parce qu'elle était excisée. Et ça lui faisait mal, elle avait des petites séquelles. Et en même temps, elle était très hostile à tout nouveau contact avec un homme. Elle a des enfants, mais qui étaient restés au pays. Donc, elle était très fermée, très déprimée. Et elle était venue consulter. Et donc, on s'était revus. Je lui avais expliqué que je voulais bien l'opérer de son clitoris, mais pas tout de suite. Elle avait tellement d'autres problèmes à régler. Et petit à petit, elle est venue régulièrement, elle est venue à tous les groupes de parole, et puis j'ai fini par l'opérer. Et ensuite, on l'a accompagnée dans sa demande d'asile, parce qu'elle avait été déboutée une première fois, et la patiente a eu son droit d'asile, donc on était très très contents. Après quoi, grâce à des assos, on lui a trouvé un CDI dans un hôtel où elle est femme de ménage, et enfin, elle a un toit sur sa tête. Et elle est absolument méconnaissable. C'est-à-dire entre la première fois où je l'ai vue sortant du ruisseau et en larmes, et aujourd'hui où elle va à l'atelier amélioration de l'estime de soi, et donc j'ai des photos d'elle maquillée, en train de poser, absolument sublime. C'est vraiment plus la même femme.
Et ces groupes de parole, ils sont extrêmement importants pour toutes ces femmes, j'imagine.
Oui, les groupes de parole rencontrent vraiment beaucoup de succès. Il y en a trois. Il y a le groupe de parole des femmes victimes de violences conjugales, le groupe de parole des femmes victimes d'inceste et d'agressions sexuelles, et puis le groupe de femmes mutilation. Donc c'est sur 3 jours différents pour que les patientes puissent aller partout. Et ouais, c'est bien parce que, par exemple, je peux vous parler du groupe mutilation parce que je m'en occupe. Déjà, on leur donne des connaissances anatomiques, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on leur a enlevé, qu'est-ce qui reste, pourquoi est-ce que ça pourrait fonctionner même si on n'opère pas. Ensuite, elles peuvent échanger entre elles. Toi, tu t'es fait opérer, est-ce que tu as eu mal, est-ce que tu es bien, est-ce que tu es contente, est-ce que tu me conseillerais. C'est très important dans la vie des pères. Ou alors, elles ont besoin de partager leur histoire d'exil. Enfin, voilà. Et ces moments ensemble sont pour elles très, très précieux.
Bonjour. Vous avez rendez-vous avec moi ?
Oui.
C'est bon, vous êtes la prochaine sur ma liste. Posez-vous, je m'occupe de vous.
Je ne peux pas dire que je me sois réveillée un matin en disant « bon, ben maintenant, ça suffit les conneries ». Non, c'est plus un lent processus de maturation, puisque chaque fois qu'il y avait la possibilité par mon métier de faire en sorte que ça soit moins compliqué. Par exemple, je prenais en charge très volontiers des femmes homosexuelles qui demandaient à être accompagnées pour une insémination en Belgique ou je sais pas quoi. Voilà, toutes ces choses-là, je me disais, au moins ça, je peux les aider à faire ça, c'est mon métier. Et puis, c'est juste qu'un jour, je me suis dit, je pourrais peut-être même faire plus, quoi, et peut-être que ça serait pas si compliqué que ça de faire plus. C'est un peu comme ça, par un processus assez lent. Ah, la grande question. Je sais pas ce que c'est que le féminisme. Moi, je sais ce que c'est une femme, je sais ce que ça peut lui apporter de complications dans sa vie. Finalement, le féminisme, c'est juste avoir envie que les femmes soient des hommes comme les autres.
Si le travail de la docteure Rada Hatem et de toute son équipe vous intéresse, je vous invite à consulter le site internet de la Maison des Femmes, lamaisondesfemmes.fr. J'espère que ce nouvel épisode de Parole d'Elle vous a plu. Dites-le-moi en laissant une note et un commentaire dans votre appli de podcast. Parole d'Elle est aussi sur Facebook, Instagram et Twitter. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la page. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle rencontre.